Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mercredi 24 juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Seroudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
République démocratique du Congo, le président ougandais Yoweri Museveni promet à la CENCO d'aider au démantèlement des groupes armés dans l'est du Congo.
En Guinée, condamnation à la prison à perpétuité de 4 assassins de Tierno Aliou Diaouné, un ministre sous la transition militaire.
En Gambie, l'ex-président Yahya Jammeh a été accusé d'avoir fait tuer des dizaines de migrants ghanéens.
Boris Johnson, ex-ministre britannique des Affaires étrangères, succède aujourd'hui à Theresa May au poste de Premier ministre.
Et ici à Washington, audition marathon aujourd'hui au Congrès pour le procureur Robert Mueller qui a mené l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, l'épiscopat annonce avoir obtenu hier du président ougandais Yoweri Museveni sa collaboration pour démanteler des groupes armés actifs depuis plus de deux décennies dans l'est du pays, particulièrement les milices des forces démocratiques alliées, les ADF. Ekia Badou fait le point.
Le président de l'épiscopat congolais, Monseigneur Marcel Outembi, et sa délégation qui participait à une assemblée plénière des évêques d'Afrique et Madagascar tenue à Kampala ont été invités à une audience auprès du président Museveni. Le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a saisi cette occasion pour transmettre au président de l'Ouganda la préoccupation de l'épiscopat congolais sur la présence des rebelles étrangers, parmi lesquels des milices du groupe armé ougandais musulman Force démocratique alliés, selon le communiqué. En réaction, le président Museveni a affirmé sa détermination à collaborer avec les autorités de la RDC pour le démantèlement de ces groupes armés qui sont aussi un danger pour son pays, peut-on lire dans ce même communiqué, soulignant l'importance de l'implication de la population concernée dans cette lutte. Opposés au président Museveni, ces miliciens musulmans ougandais présents dans l'est de la RDC depuis 1995 ne s'attaquent pas à l'Ouganda, mais commettent des exactions sur des populations congolaises. Monseigneur Marcel Outembi a réitéré la disponibilité de l'épiscopat congolais à accompagner, comme autorité morale avec les églises sœurs, les États concernés dans la lutte contre l'insécurité dans la région des Grands Lacs africains pour l'édification de la paix, souligne le communiqué.
En République démocratique du Congo même, la maire de la ville minière de Kolwezi, capitale du Lualaba, a interdit hier l'organisation des manifestations publiques 3 jours avant une visite programmée de l'ex-gouverneur du Katanga, l'opposant Moïse Katumbi. Selon Véronique Outipé, c'est pour la sécurisation de tous et pour la paix. Rentré en mai d'un exil de 3 ans sous l'ancien régime de Joseph Kabila, M. Katumbi n'a pu se rendre dans une autre ville de la RDC à part son fief de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, où il avait été accueilli à son retour par plusieurs dizaines de milliers de personnes.
En Guinée, 4 suspects guinéens, sierra-léonais, libériens et nigérians ont été condamnés à Conakry à la prison à perpétuité. Ils ont été reconnus coupables de l'assassinat de Tierno Aliou Diaouné, alors ministre sous la transition militaire en 2010. Les précisions de John Lyndon.
Brillant intellectuel, Tierno Aliou Diaouné, 53 ans, avait été assassiné en février 2015 dans la capitale guinéenne et son véhicule 4x4 volé. Il avait été criblé de balles dans sa voiture dans la banlieue de Conakry. Ses assassins s'étaient introduits par la force dans son véhicule en début de soirée. Le procès de ces assassins, entamé le 18 mars et marqué par plusieurs suspensions, s'est achevé lundi soir devant le tribunal de Tixine dans la banlieue de Conakry, qui a sorti la peine d'une mesure de 30 années de sûreté. Les 4 prévenus ont tous nié les faits d'assassinat pour lesquels ils étaient poursuivis. C'est du moins ce qu'indique Mohamed Abou Kamara, leur avocat. Le ministre Tierno Aliou Diaouné avait été un acteur en 2006 et 2007 de la mobilisation de la société civile qui a ébranlé le régime du général Lansana Conté et l'ont contraint à nommer Lansana Kouyaté premier ministre. Sous le régime de la transition militaire dirigée par le général Sékouba Konaté en 2013, il fut nommé ministre de la Jeunesse et et des Sports. Le Conseil national des organisations de la société civile de Guinée, dont Dioné était membre, avait à sa mort dénoncé un assassinat lâche et l'irresponsabilité notoire de l'État. À noter que plusieurs assassinats similaires non élucidés se sont produits ces dernières années à Conakry.
En Gambie, deux anciens membres de la garde présidentielle ont accusé l'ex-président gambien Yahya Jammeh d'avoir fait exécuter une trentaine de migrants originaires du Ghana. Ils ont déclaré lors d'une audition publique devant la commission Vérité et Réconciliation que Jammeh a donné l'ordre de commettre le massacre à une unité paramilitaire dont il faisait partie. Bagassi Koura.
30 Ghanéens faisaient partie d'un groupe de migrants clandestins ont été tués en juillet 2005. À l'époque, 44 Ghanéens et plusieurs Nigériens, Sénégalais et Togolais avaient été arrêtés sur une plage de Gambie alors qu'ils tentaient de se rendre en Europe. Yahya Jammeh a ordonné l'exécution de ces ressortissants étrangers, présentés comme des mercenaires venus renverser le président, a déclaré Omar Jallo, qui était membre des Jonglers, une unité officieuse de soldats choisie au sein de la garde nationale. Selon son récit qui confirme une enquête des ONG Human Rights Watch et Trial, ces 30 Ghanéens ont été séparés du reste du groupe et amenés dans le village du président Kanilé avant d'être conduits dans un lieu d'exécution en Casamance, la région du sud du Sénégal, frontalière de la Gambie. Les autres migrants ont également été tués, à l'exception de Martin Kiré, l'unique survivant ghanéen connu qui avait réussi à se libérer et à sauter du véhicule en marche pour s'évader, selon Human Rights Watch et Trial. Yahya Jammeh, en exil en Guinée équatoriale depuis janvier 2017, a toujours démenti être impliqué dans ces assassinats.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Grande-Bretagne, la première ministre sortante, Theresa May, quitte Downing Street ce mercredi après avoir été reçue au palais de Buckingham par la reine Elizabeth, qui doit nommer officiellement Boris Johnson à la tête du gouvernement. Ce dernier a été élu mardi à la tête du parti conservateur, devançant largement son adversaire Jeremy Hunt, ce qui lui a ouvert la porte de la primature. Sa première mission sera de mener à bien la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qu'il veut effective dès le 31 octobre, avec ou sans accord.
Ici à Washington, le procureur spécial Robert Mueller, qui a enquêté sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, doit être ce mercredi la vedette d'une audition marathon au Congrès. Les démocrates vont tenter de le forcer à clarifier ses conclusions, bien qu'il ait déjà dit ne pas souhaiter aller au-delà du contenu de son rapport remis en mars. Mais les ambiguïtés du document ont laissé la porte ouverte à des interprétations divergentes. Le président Donald Trump soutient avoir été totalement blanchi par le procureur spécial, déclarant l'affaire close. Pas de corruption, pas d'entrave, répète-t-il.
Le gouvernement américain a assoupli hier les règles d'expulsion rapide de clandestins. Les nouvelles mesures permettent désormais à la police de renvoyer ceux qui sont entrés illégalement aux États-Unis depuis 2 ans sans passer devant un juge. Abdourahman Dia.
Le ministre par intérim de la Sécurité intérieure a expliqué que cette modification de la loi sur l'immigration et la nationalité est un outil supplémentaire pour affronter la crise sécuritaire et humanitaire actuelle à la frontière sud-ouest et à travers le pays. Cette loi fait bien comprendre que si vous n'avez pas l'autorisation légale d'être ici, nous vous expulserons, a-t-il ajouté. Cette mesure, entrée en application après sa parution au journal officiel, étend de 14 jours à 2 ans la période de séjour illégal pendant laquelle un sans-papier peut être expulsé sans avoir à comparaître devant un juge de l'immigration. Jusqu'ici, un immigré clandestin pouvait être expulsé directement s'il était arrêté dans les 2 semaines après son arrivée sur le territoire américain. Elle étend également les expulsions rapides au pays entier, alors qu'elles étaient auparavant limitées à une zone de 160 km à vol d'oiseau depuis les frontières terrestres américaines. Selon le centre de recherche Pew, 10,5 millions de personnes vivaient illégalement aux États-Unis en 2017. Près des 2/3 y étaient installés depuis plus de 10 ans.
Une attaque israélienne a visé tôt ce mercredi le sud de la Syrie en guerre, a rapporté l'agence officielle syrienne Sana. Et l'Observatoire syrien des droits de l'homme a signalé des tirs de missiles contre les positions militaires du régime syrien et de ses alliés. L'ONG a fait état de pertes humaines sans être en mesure de fournir un bilan exact. Israël a toujours affirmé son intention de continuer à viser les positions tenues par l'Iran ou le Hezbollah en Syrie, assurant qu'il ne laissera jamais Téhéran s'implanter à sa frontière.
Les États-Unis pensent avoir abattu un second drone iranien le 18 juillet au-dessus du détroit d'Ormuz. C'est ce qu'a indiqué le général Kenneth McKenzie, commandant des forces américaines au Moyen-Orient, dans un entretien accordé à la chaîne CBS. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le groupe nucléaire français Orano va poursuivre ses activités dans le nord du Niger, même si ses deux filiales dans le pays, Somaïr et Kominak, ont connu des difficultés à assurer ce lundi son directeur général Philippe Noche. Il a aussi affirmé que le chantier de la mine d'Imouraren pourrait démarrer dès que les conditions des marchés le permettraient. Le gisement d'Imouraren devrait produire 5000 tonnes d'uranium par an pendant plus de 35 ans. Ce chantier, entamé en 2009, a été interrompu en 2015 en raison d'une baisse du prix de l'uranium. Le groupe orifère canadien Barrick Gold dénonce le développement de l'orpaillage clandestin qui menace la sécurité des compagnies et la durée de vie des mines en Afrique de l'Ouest. Au-delà de la destruction de l'environnement, de l'utilisation des enfants dans les mines, des abus sur les femmes et autres, cet orpaillage pose de sérieux problèmes liés à l'insécurité des sociétés minières. Pour Barrick Gold, ce problème doit être résolu dans un plan régional avec une volonté politique des pays impliqués, car les États pris individuellement ne peuvent y faire face efficacement. Terminons avec le FMI qui a révisé en baisse sa prévision de croissance mondiale pour cette année. Il la qualifie de morose et modérée dans un contexte marqué par des tensions commerciales persistantes entre Pékin et Washington et un difficile Brexit en Europe. Le FMI table désormais sur 3,2% cette année et 3,5% en 2020, soit 0,1 point de moins que lors de ses prévisions d'avant.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Burkina a un nouvel entraîneur.
Oui, l'instance dirigeante du football burkinabé a fait confiance à l'expertise nationale en portant son choix sur Kamou Malo, désormais ex-coach de l'USFA. Il succède au Portugais Paulo Duarte, dont le contrat expire à la fin de ce mois, lui qui n'a pas réussi à qualifier l'équipe pour la CAN Égypte 2019. Le nouveau sélectionneur des étalons a entraîné des clubs comme le BPS, l'AS Sonabel, le RCK et l'USFA. Kamou Malo a remporté la Coupe du Faso en 2012 et 2016 avec le RCK justement, club avec lequel il a été titré à deux reprises dans le championnat en 2016 et 2017. Sa meilleure performance au plan africain reste les 16e de finale de la Ligue des Champions 2017 et les play-offs de la Coupe de la Confédération la même année, les Faucons ayant été reversés dans la deuxième compétition africaine.
Crystal Palace exige plus pour lâcher Wilfried Zaha.
Le club anglais ne veut pas lâcher l'international ivoirien pour moins de 88 millions d'euros. Selon Sky Sport, les Eagles ont déjà refusé une proposition de 45 millions d'euros de la part d'Arsenal. Les pensionnaires de l'Emirates Stadium auraient proposé le jeune Rice Nelson en prêt et 70 millions pour Zaha. Offre refusée par Crystal Palace selon The Independent. L'attaquant souhaiterait quant à lui partir. L'Ivoirien a inscrit 10 buts en 34 rencontres de Premier League la saison écoulée. Lui qui sort de la Coupe d'Afrique des Nations où il a été éliminé en quart de finale avec les éléphants de Côte d'Ivoire.
La FIFA suspend un ancien secrétaire de la Fédération du Botswana.
La FIFA a banni à vie Muketsi Ngoklele, ancien secrétaire général de la Fédération botswanaise de football. La commission d'éthique l'a reconnu coupable d'avoir accepté des pots de vin dans le cadre de manipulation de matchs internationaux, selon le communiqué de la FIFA. Il a également écopé d'une amende de 45 000 euros. La procédure contre l'ancien dirigeant a été engagée en septembre 2018 dans le sillage d'une enquête autour du Singapourien Wilson Raj Perumal, impliqué dans plusieurs scandales de trucage de matchs. Ce dernier a été arrêté en Finlande en 2011 pour avoir arrangé des matchs de première division du pays.
Le président de la Fédération argentine sanctionné.
La Conmebol a décidé de retirer avec effet immédiat sa confiance à Claudio Tapia en tant que représentant par intérim de l'instance au Conseil de la FIFA. Dans le même temps, l'organisme a convoqué des élections pour désigner son remplaçant. L'instance lui reproche son soutien à la star de l'Albi Céleste Lionel Messi qui a fustigé l'arbitre arbitrage durant la Copa América. Au lendemain de la défaite de l'Argentine contre le Brésil en demi-finale 2-0, le DG Claudio Tapia a envoyé un courrier pour exprimer son mécontentement à la CONMEBOL, dénonçant, je cite, de graves et grossières erreurs d'arbitrage qui auraient pénalisé, selon lui, l'équipe de Messi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Brexit, crise iranienne, incertitude économique, voici quelques-unes des difficultés qui attendent le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson à partir d'aujourd'hui. Quels sont ses atouts pour rassurer les milieux économiques qui redoutent un divorce douloureux avec l'Europe? On en parle avec John Henry, correspondant Europe du quotidien britannique The Guardian.
Il compte tout simplement sur le rhétorique, les promesses, énormément d'optimisme. Il dit que, en gros, il suffit de croire dans le Brexit pour que ça marche. Il suffit de dire que la Grande-Bretagne est un grand pays et a survécu au pire, bien pire que le Brexit. Que tous ceux qui prétendent que un Brexit sans accord sera catastrophique pour l'économie britannique, ce sont des défaitistes.
Peut-il alors mettre en œuvre tout au moins ce Brexit sans exacerber les profondes divisions sur la question devenue le centre de gravité de la société britannique?
Mettre en œuvre un Brexit sans accord, ce n'est pas si compliqué que ça puisque c'est l'option par défaut. Si oui ou non Boris est capable de réunir d'abord son parti, ce qui n'est pas du tout sûr, et ensuite le pays, tous les deux polarisés, c'est difficile d'exagérer à quel point la Grande-Bretagne est divisée par la question du Brexit. Si oui ou non Boris peut mettre en œuvre le Brexit et réunir le pays, il y en a beaucoup qui le doutent. C'est une tâche extrêmement compliquée.
À vous entendre, sa désignation en tant que Premier ministre va conduire la Grande-Bretagne droit dans le mur, c'est bien cela?
Droit dans le mur, je ne sais pas. Il est possible. Boris Johnson, c'est un homme politique qui a toujours été capable de changer ses opinions. Il est aussi capable, c'est peut-être le seul homme politique, qui est capable de vendre le deal, l'accord négocié par Theresa May, avec quelques petits changements, quelques amendements. Il est possible qu'il arrive à vendre quelques changements à cet accord à la Chambre des communes. S'il arrive à faire cela, on sortira avec un accord. Je ne dirai pas que tout ira bien, mais ce ne serait pas la catastrophe annoncée.
John Henry, correspondant Europe du quotidien britannique The Guardian, joint à Londres par Irénée Herman Ungbo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'autonomisation des communautés est l'une des stratégies de réduction de la pauvreté. C'est ce qui est expérimenté dans une localité du sud du Togo, où l'activité de vannerie permet à la population de mieux vivre et de faire des projets d'avenir. Reportage sur place de notre correspondante Kay Lawson.
Nous sommes à Voga-Ouga, Lomé, à environ 80 km au nord-est de Lomé. Dans une grande cour, une dizaine de vanniers sont à l'œuvre. L'osier, qui est considéré aujourd'hui comme de l'or dans la localité, n'était que de l'herbe nuisible il y a encore moins d'un an. Ce matériau prisé dans la vannerie fait le bonheur de tout un village depuis que la société Ten by Tree a ouvert les yeux de cette population sur l'osier. Kossi Vileka, artisan vanier. Ten by Tree nous a montré comment on peut faire des sacs et paniers avec de l'osier. Cette herbe, nous l'avions toujours considérée comme nuisible. Nous ne savions pas qu'elle a une si grande valeur. Avant, nous utilisions des herbicides contre l'osier, mais aujourd'hui, c'est notre allié contre la pauvreté. L'osier nous sert de matière première pour la confection de très belles œuvres qui sont exportées.
et 1 000 euros.
Avec Lozier, les artisans produisent des sacs et paniers qui sont achetés par la société Ten by Tree qui les achemine vers les États-Unis. Des sacs et paniers qui ne sont pas disponibles sur le marché togolais. Et Dosonsi, directeur de Ten by Tree Togo, affirme que la société permet aux artisans d'avoir accès au marché américain et de disposer de revenus conséquents.
Ten by Tree leur a garanti des marchés. C'est-à-dire si tu fais, par exemple, 10, 15, 20, 30 paniers par mois, Ten by Tree prend l'engagement de racheter tous vos paniers. L'impact économique est vraiment palpable. C'est-à-dire les gains tirés de la vente de ces paniers vous permettent d'économiser et d'ici 3 ans de mettre en place votre propre business. Ça vous rend autonome après 3 ans. Et vous êtes certifié. En quelque sorte, on vous sort de la pauvreté.
Depuis l'implantation de Ten by Tree à Vogan ou Gadomé, la population, du moins ceux qui collaborent avec le groupe américain, ont le sourire aux lèvres. Dans 3 ans, ces artisans disposeront d'assez d'économies pour créer leur propre business et vivre leurs rêves. Grâce à cette activité et l'avantage que nous accorde Ten by Tree, en achetant nos paniers, je pourrais faire d'économies et devenir une grande commerçante. Avec l'épargne, j'envisage faire du commerce, ce qui me permettra de sortir de la pauvreté. Ten by Tree s'est donné pour mission de nous sortir de la pauvreté. Mon rêve, c'est d'avoir ma propre ferme agro-pastorale et je pense que Ten by Tree m'aidera à le réaliser. La vannerie ne profite pas qu'aux artisans. Toute la communauté de Vogan ou Gadomé en a pour son compte, surtout les élèves. Ten by Tree vient d'ériger dans la localité un bâtiment de 3 salles de classe dans l'école primaire et d'équiper le collège en table banc. Kyle Sun, de retour de Vogan ou Gadomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
La conférence mondiale sur le sida s'est ouverte dimanche à Mexico. Au centre des échanges, le VIH comme un autre défi lié à la crise migratoire latino-américaine. En effet, de nombreux migrants centra-américains sont contraints d'émigrer. Par manque de médicaments, d'autres ignorent qu'ils sont porteurs de virus. La rencontre intervient quelques jours après que l'ONU-SIDA a rendu public son rapport semestriel sur le virus. Arzuma Compaoré.
6 000 participants, scientifiques, médecins, activistes et autorités sont à cette 10e conférence scientifique mondiale. L'objectif ? Faire le point sur les derniers traitements et aborder les enjeux sociaux et humains qui en découlent. Selon les organisateurs de la conférence, l'un des objectifs est de montrer l'impact de la migration, notamment sur les personnes atteintes en Amérique latine. Si le système de santé publique mexicain offre un accès gratuit aux antirétroviraux, certaines institutions exigent des papiers en règle, voire un emploi, à l'exception de quelques cliniques comme la clinique Condesa, qui accueille des patients de tous les pays et leur offre un traitement gratuit, peu importe leur statut. Légale. Dans son rapport semestriel, l'ONU-SIDA note que quelque 770 000 personnes dans le monde sont mortes de maladies liées au sida en 2018, ce qui représente une baisse d'un tiers depuis 2010.
Michel Sidibé, ministre de la Santé et des Affaires sociales au Mali. La situation de la lutte contre le sida au Mali ressemble un peu à la situation de la lutte contre le sida en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale en général. Le Mali, nous avons un problème majeur. 66% des populations vivant avec le VIH ignorent leur statut sérologique et des facteurs liés à la stigmatisation, comme vous le savez, à la rupture des tests et même l'organisation des services demeurent encore des freins à l'accès au dépistage. Il est important d'aller maintenant avec des programmes modernes qui existent, tels que par exemple l'autotest que nous avons lancé au mois de juin depuis que je suis arrivé avec le programme Atlas. Avec cet autotest, on va ramener le patient au centre du programme et nous allons le rendre acteur du changement et cela va favoriser la démédicalisation. Pouvoir se faire dépister sans être stigmatisé et cela va changer complètement la nature de nos programmes. Moi, je suis convaincu qu'avec la recherche scientifique, avec les nouveaux résultats que nous avons aujourd'hui à Mexico au niveau de la conférence, on peut aller vers le contrôle de cette épidémie-là.
Si le nombre de décès liés au sida en Afrique, le continent le plus touché par l'épidémie, a chuté cette décennie, l'Europe de l'Est a vu le nombre de morts augmenter de 5% et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de 9%. Des décennies de recherche n'ont pas encore permis de trouver ni un remède ni un vaccin contre le VIH qui a infecté près de 80 millions de personnes et en a tué plus de 35 millions depuis le début des années 80. Le rapport a également averti qu'un manque de volonté politique associé à une diminution des financements risquait de saper les progrès réalisés jusqu'à présent. L'année dernière, 19 milliards de dollars ont été dégagés pour la riposte au sida, soit plus de 7 milliards de moins que les 26,2 milliards estimés nécessaires d'ici 2020.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, nous allons parler de l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans le Nord Kivu et en Ituri depuis août 2018. Près de 2600 cas ont été recensés. C'est dans ce contexte que le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a rendu le tablier quelques jours après la décision du président Tshisekedi de superviser directement le contrôle de la riposte. De son côté, l'OMS a déclaré l'épidémie en RDC une urgence de portée mondiale. Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le Sénégal se trouve au cœur de l'une des zones de pêche les plus riches du monde, mais depuis quelques années déjà, les poissons se font de plus en plus rares, ce qui affecte de nombreux pêcheurs artisanaux comme dans la ville de Saint-Louis, où s'est rendu Echa Sarraï son reportage.
À Saint-Louis, la pêche est une tradition ancestrale. C'est un savoir-faire qui se transmet de père en fils. Mais la pêche n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années, a dit Ousmane Diop, pêcheur à Saint-Louis.
Nos parents avaient de la chance, des règles traditionnelles dont la communauté des pêcheurs était bien respectée. Mais maintenant, tout a changé. Les familles s'élargissent et on utilise du matériel qui n'existait pas avant.
Le marché est saturé. Les familles sont plus larges et les enfants constituent une grande partie de la main-d'œuvre. Beaucoup de pêcheurs vont pêcher plus loin, en Mauritanie notamment. La Mauritanie a augmenté la sécurité dans ses eaux. Et les pêcheurs sénégalais qui s'y aventurent, comme Malik Fall, risquent d'être arrêtés et condamnés.
Si tu payes, on te rend ton matériel. Si tu ne payes pas, on va le confisquer. Mais on va te tenir là-bas deux jours.
Mais à part ces difficultés avec les autorités mauritaniennes, Fall et les autres pêcheurs disent que le problème le plus pressant est celui de l'avancée de la mer.
L'avancée de la mer affecte notre travail. C'est pourquoi on ne peut pas atterrir au bord de la mer. On est obligé de faire le tour. Sur la brèche.
La mer a englouti des bâtiments entiers sur la plage de Saint-Louis. Auparavant, des femmes séchaient le poisson sous des tentes sur la plage. Mais actuellement, elles sont obligées de travailler dans des petites échoppes en ville, a dit Aminta Sek, veuve d'un pêcheur.
On a subi des pertes. La difficulté la plus pressante ici, c'est que l'espace est réduit, c'est trop petit. Avec l'odeur du poisson et la chaleur, on étouffe. Au moins quand on était au bord de la mer, on respirait de l'air frais.
Mais les pêcheurs et leurs familles disent qu'ils n'ont de choix que de s'habituer au travail dans les nouvelles conditions, a dit Mustapha Diang, secrétaire général du syndicat des pêcheurs au Sénégal.
Nous les pêcheurs, nous n'avons qu'une seule activité, depuis nos arrière-grands-pères jusqu'à nos jours. Nous sommes pêcheurs de père en fils. Nous n'avons qu'un seul métier, c'est le métier de la pêche. Quand ça marche pour nous. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas pour nous.
Même en surmontant ces difficultés que leurs parents n'ont pas vécues, les pêcheurs s'inquiètent pour l'avenir de la pêche et celui de leurs enfants, qui risquent de se retrouver un jour sans gagne-pain. Isha Sarai, VOA Afrique, Saint-Louis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.